Vous êtes sur RTL.
Stéphane Carpentier, ce matin, votre invité est Sibeth Ndiaye, est la porte-parole du gouvernement.
En direct et en studio, bonjour à vous, Sibeth Ndiaye.
Bonjour.
Conformément à l'article 49, alinéa 3 de la Constitution de 1958, j'ai décidé d'engager la responsabilité du gouvernement sur le projet de loi instituant un système universel de retraite.
Alors Sibeth Ndiaye, pourquoi maintenant ?
Tout simplement parce que cela fait déjà 2 semaines que nous examinons ce projet de loi pour la réforme des retraites. En 2 semaines, on a utilisé 115 heures de débat pour 7 articles. Je vous invite à faire une petite règle de 3, c'est une opération très très simple à faire. Si vous vouliez arriver au bout des 65 articles, il fallait 1000 heures de débat. Donc quand on arrive dans ces extrémités-là, c'est bien qu'au fond, c'est pas vraiment du débat qu'on a, c'est de l'invective, c'est des invectives qui se sont échangées dans l'hémicycle, c'est une manière de piétiner le débat démocratique, parce qu'au fond, il n'y a plus du tout d'arguments qui se sont échangés dans les 2 dernières semaines.
Je vous pose la question, pourquoi maintenant ? Parce que ça a surpris beaucoup de monde que le Premier ministre dégaine cet article de la Constitution un samedi comme ça, 17h35 en fin de journée.
Bah écoutez, je crois qu'il n'y a pas d'heure admise communément pour engager la responsabilité du gouvernement selon l'article 49.3 de la Constitution. Ce qui est certain, c'est qu'on a considéré qu'on arrivait au bout de ce qui était possible dans l'hémicycle après les 2 semaines de débat, quasiment nuit et jour, week-end compris, qui avaient eu lieu jusqu'à maintenant.
Alors je complète ma question, le faire en pleine crise du coronavirus un samedi en fin de journée.
Alors vous savez, le coronavirus, il a été détecté en Chine il y a 2 mois. Depuis 2 mois, le gouvernement autour du Premier ministre est totalement mobilisé pour gérer cette crise. On a fait des tas de réunions. Moi, j'ai passé beaucoup de dimanches avec le Premier ministre pour avoir des discussions autour de ce qu'il convenait de faire en France sur cette crise. Et dans le même temps, on a aussi géré la réforme des retraites et on a aussi géré le passage dans l'hémicycle avec un ministre particulièrement mobilisé qui est Laurent Pietraszewski qui s'occupe de ce sujet-là. Donc le gouvernement, d'un côté, peut être mobilisé pour lutter contre le coronavirus et dans le même temps être aussi mobilisé pour mener à bien cette réforme des retraites. Moi, ce que je regrette au fond, c'est qu'il y ait une forme de confiscation du débat. Quand vous êtes au Parlement, l'objectif, c'est pour la majorité d'un côté d'amodier le texte du gouvernement, c'est normal, c'est une relation habituelle entre un exécutif et sa majorité. Pour les oppositions, c'est le moment de faire valoir leur point de vue. Qu'est-ce qu'on fait valoir comme point de vue quand on passe 9 heures à discuter du titre d'une loi ?
Donc c'était pas un choix calculé pour noyer la décision dans une riche actualité. On est d'accord à entendre vos propos.
Bah, honnêtement, on l'aurait fait lundi, on l'aurait fait jeudi. Je suis pas certaine que l'actualité coronavirus ait disparu à ce moment-là.
L'opposition, les syndicats parle d'un passage en force, d'une absence de démocratie aujourd'hui.
Moi, je crois que la brutalité, elle est du côté de ceux qui ont empêché que le débat il ait lieu normalement à l'Assemblée nationale. L'Assemblée, vous pouvez y déposer des amendements. Ces amendements, ils doivent permettre d'éclairer le débat. Quand ils sont là pour remplacer parfois par en même temps et annuellement par chaque année, honnêtement, ça n'a strictement aucun intérêt.
En même temps, après, vous n'attendiez pas à ce que ça se passe très très bien. Quoi,
mais
après
je
ne
m'attendais pas
passé.
Du tout. Je ne m'attendais pas à ce que tout d'un coup, la France insoumise crie « Hourra !» devant ce texte. Mais je m'attendais à avoir une discussion entre personnes sensées, adultes, respectueuses les unes des autres. On n'a pas du tout eu ça. On a eu des gens qui se livraient à l'invective, qui essayaient de faire craquer les autres nerveusement et qui vous expliquaient qu'ils étaient dans une tranchée comme si on était en pleine guerre en 14-18. Honnêtement, c'est pas ça le débat démocratique. Après, le choix qu'a fait le Premier ministre, c'est de présenter un texte pour ce 49.3 qui est enrichi d'amendements. Il y a près de 300 amendements qui ont été pris en compte, de la majorité, de l'opposition, mais aussi des organisations syndicales et patronales.
Sibeth Ndiaye, est-ce qu'Emmanuel Macron a mis la pression sur ce gouvernement pour que les choses s'accélèrent ?
La seule pression qu'on a eue, c'était de faire en sorte que l'engagement qu'il avait eu pendant la campagne présidentielle soit tenu dans ce quinquennat. Autrement dit, que avant la fin du quinquennat, à peu près en 2022 ou à la fin de l'année 2021, on puisse mettre en place les effets positifs de cette réforme. Je pense en particulier à toutes les mesures sociales de justice qui pourront être mises en place au 1er janvier 2022. En rétro-planning pour le gouvernement, ça signifie qu'il faut qu'on adopte cette réforme avant l'été.
Je vous parle de la pression de l'Élysée parce que est-ce que justement Emmanuel Macron ne voulait pas absolument que ce texte passe avant le scrutin municipal ?
Alors, c'est pas tellement un sujet vis-à-vis des élections municipales. Ce que je vous disais, disais, c'est vraiment pour nous l'objectif. Si on veut que le minimum de pension de 1 000 euros pour tous les Français, il arrive au 1er janvier 2022, si on veut que les nouvelles majorations de pension qui permettent d'avoir un peu plus de pension de retraite quand on a, dès qu'on a un premier enfant, arrivent au 1er janvier 2022, en fait, il faut que toutes ces mesures-là, elles aient été prises, grosso modo, avant l'été 2020, dans la loi. Et donc après, bah, c'est une question de rétro-planning, hein, tout simplement, en fonction du temps parlementaire qui est disponible.
Je parlais des municipales, Sibeth Ndiaye. Est-ce qu'elles sont en danger en raison de la propagation du coronavirus dans notre pays, puisque ça s'accélère franchement? On pourrait imaginer les reporter, les décaler?
Alors à ce stade, on ne se place pas du tout dans cette perspective. Les données
c'est
que
dans
nous
15
avons,
jours, le premier tour.
C'est
hein,
dans
pardon.
15 jours. Les données scientifiques et médicales dont nous disposons aujourd'hui nous laissent à penser que ces élections pourront se tenir parfaitement normalement, et on se place vraiment dans la perspective de faire en sorte qu'elles puissent se tenir. Après, peut-être que dans les endroits où il y a ce qu'on appelle des clusters, c'est-à-dire des endroits où il y a des regroupements importants de patients et où on identifie des chaînes de transmission du coronavirus, peut-être qu'il faudra prendre des précautions particulières, par exemple avoir du gel hydroalcoolique, je ne sais pas moi, à l'entrée des bureaux de vote, pour qu'il y ait ce lavage des mains qui est vraiment la précaution indispensable, première, nécessaire pour éviter la transmission. On appréciera la situation en fonction. Évidemment, on associera les municipalités aux décisions qui seront prises pour aussi rassurer les Français. Mais vraiment, l'enjeu démocratique de ces élections municipales, il est majeur, et on ne veut pas du tout priver les Français de ce moment d'expression.
Le scénario n'est pas évoqué en tous les cas.
Non, le scénario n'est pas évoqué pour l'instant.
On est à 100 cas dans notre pays hein, depuis hier. On a atteint ce niveau-là. Il y a 2 morts, 9 personnes hospitalisées dans un état grave. Est-ce qu'on doit s'inquiéter?
Alors, on doit surtout se préparer. Vous savez, une épidémie de grippe, chaque année, c'est 2,5 millions à 3 millions de personnes. C'est malheureusement autour de 10 000 morts chaque année. Donc, on est encore très, très loin de cet étiage-là. Néanmoins, quand on regarde la vélocité avec laquelle l'épidémie se répand à travers le monde, la mortalité, qui est celle du coronavirus, qui est supérieure à la mortalité de la grippe, malheureusement, il faut qu'on soit prêt. Donc, on est en ce moment dans un moment où on sait que le virus existe sur notre territoire, mais on veut qu'il circule le moins vite possible. Pourquoi c'est important ça? Parce que en même temps, on a justement une épidémie de grippe. Et pour notre système sanitaire, c'est mieux de ne pas superposer les deux épidémies. Donc on essaie de freiner la propagation du virus pour faire en sorte de pouvoir le prendre pleinement en charge si on en arrivait à une épidémie.
J'aurais bien comprendre les choses. On a annulé un carnaval à Annecy, par exemple. On a reporté un grand salon immobilier à Cannes. On a fermé le salon de l'agriculture avec 24 heures d'avance hier à Paris. C'est quoi l'idée? C'est donc d'interdire les rassemblements de plus de 5000 personnes dans des endroits confinés, c'est ça hein?
Alors là, stratégie qu'on a mise en place, c'est de dire quand on a des gens qui sont serrés les uns contre les autres, qui sont dans un milieu confiné et qui sont en grande quantité, on évite de faire en sorte qu'il y ait ces rassemblements collectifs de grande ampleur.
J'aurais des exemples concrets. On va arrêter ou annuler tous les concerts, par exemple, qui vont avoir lieu dans des salles?
Dans les salles de plus de 5000, oui, tout à fait.
Ça, c'est officiel.
Oui, tout à
La
fait.
Décision est prise pour les prochains
oui,
jours.
Oui, tout à fait.
Dès aujourd'hui.
Dès aujourd'hui, en fait, au fur et à mesure qu'on va avancer dans le temps et qu'on voit des concerts, qui sont programmés, par exemple, je ne sais pas moi, Bercy Arena, dès lors que vous êtes dans un endroit confiné, avec plus de 5000 personnes, ça ne peut pas se tenir.
À l'Arena de la Défense, on a joué au rugby hier en fin de journée, devant 17 000 personnes.
Alors là, vous êtes dans des situations qui sont différentes. D'abord, vous êtes en milieu ouvert. Ensuite,
l'Arena de la Défense est fermée.
Pardon, là, vous êtes dans des endroits où vous pouvez avoir des brassages. En fait, ce qu'on regarde, pardon, je vais être plus claire. Ce qu'on regarde, c'est est-ce qu'il y a des brassages de population qui viennent d'endroits où il y a des zones de circulation du virus. Et donc là, dans ce cas-là, on l'interdit. Ce qu'on regarde aussi, c'est entre le moment où la décision est prise et le moment où elle peut être exécutoire, si on a assez de temps pour la mettre à exécution. Donc en l'occurrence, pour Bercy, ce n'était pas le cas. Je vais vous donner un autre exemple. Il y avait à Perpignan un rassemblement pour Carlos Puigdemont. On a souhaité l'annuler, mais en fait, le moment où la décision
l'a
prise, c'était déjà trop tard. Il n'y avait que quelques heures. Et la balance entre les questions de sécurité pour faire évacuer 100 000 personnes qui étaient attendues et la circulation du coronavirus, on a préféré jouer la sécurité des personnes.
On a annulé le semi-marathon de Paris. Il y avait 40 000 et même plus coureurs qui devaient prendre le départ tout à l'heure. Et on a joué au foot au Parc des Princes hier à Paris devant 45 000 spectateurs.
Le semi-marathon de Paris, justement, c'est le brassage de population. On a des gens qui potentiellement pouvaient venir de l'Oise. On a des gens qui venaient potentiellement de l'étranger qui venaient de zones à risque. Et alors pour ceux qui font de la course course à pied, c'est pas tout à fait mon cas, j'ai pas le profil physique pour ça, mais en fait, dans une course à pied, on crache beaucoup. Et la transmission du virus, elle se fait par des gouttelettes. Et donc, proximité des gens dans une course, gens qui viennent de tas d'endroits potentiellement à risque, du coup, on fait le choix de l'annuler. En revanche, le match OL Saint-Etienne, par exemple, de ce soir, il y a des gens qui viennent de zones où il n'y a pas de circulation du virus, on est à l'air libre, donc scientifiquement et médicalement, on considère qu'il n'y a pas lieu de l'annuler à ce stade.
Il y a des supporters des Verts de Saint-Etienne qui viennent de toute la France, qui peuvent venir de l'Oise, par exemple.
Oui, bien sûr, mais
c'est
alors,
des cas particuliers, vous allez me dire.
De proportion aussi.
Deux petites questions, deux petites réponses. Est-ce qu'on peut imaginer que le métro parisien puisse être à l'arrêt dans les prochains jours?
Alors, ce n'est pas dans ça, on ne se place pas du tout dans cette perspective, évidemment. Je vais vous dire, à chaque fois qu'on prend une décision, on doit faire la balance entre le coût et l'avantage. C'est plus coûteux aujourd'hui pour la vie du pays et notamment pour la vie de ces hôpitaux d'avoir des soignants qui ne peuvent pas arriver dans les hôpitaux parisiens, par exemple, d'avoir des policiers qui ne peuvent pas rejoindre leur lieu de travail, que ce qu'on risque en termes de circulation du virus, sachant que par ailleurs, dans un métro, en fait, on n'y passe pas tant de temps que ça. Parce qu'il faut une exposition, qui dure, donc on va prendre des précautions, évidemment, dans le nettoyage des métros, par exemple, et puis on demande aussi aux gens quand ils ont un soupçon, quand ils sont des cas confirmés évidemment, mais quand ils ont un soupçon parce que c'est des cas contacts, de porter un masque pour ne pas projeter eux-mêmes à travers les postillons des gouttelettes de virus.
Sibeth Ndiaye, vous avez du gel sur vous en permanence en ce moment?
Moi j'ai du gel sur moi en permanence et je ne salue plus, je ne fais plus la bise.
Oui, en plus on n'avait pas serré la main, je le précise aux auditeurs. Michel Simès, notre docteur, est arrivé en direct. Bonjour Michel, en direct avec tous les auditeurs à partir de 9h15. C'est important parce que ça paraît anecdotique comme ça de l'extérieur, de ne pas serrer la main, ça peut faire la différence.
Mais non, c'est pas anecdotique du tout, il faut, et je peux vous dire que mon équipe est arrivée ce matin, on ne s'est pas serré la main, on ne s'est pas embrassé, il faut faire très attention, il faut utiliser le gel en permanence. Et voilà, c'est pour ça qu'effectivement on consacre toute notre émission aujourd'hui, on a cassé complètement le code de l'hebdo pour parler du coronavirus pendant toute la durée de l'émission avec une spécialiste, une médecin urgentiste du 15 qui va nous aider aussi à y voir un peu plus clair. L'idée c'est de rassurer les gens. Alors c'est vrai que c'est un peu paradoxal parce qu'on consacre une émission entière sur le coronavirus et en même temps on dit qu'on veut rassurer.
Mais on peut prendre le temps de le faire.
Voilà, mais c'est ce qu'il faut faire et voilà, c'est la vérité scientifique du moment qui doit parler.
9h15 et les appels dès maintenant au standard, hein, 32 pour toutes les questions. Michel Simès, Sibeth Ndiaye, merci à vous.
Merci à
et
vous.
Et on ne se serre pas la main, donc merci d'être passé dans RTL ce matin pour toutes ces précisions. L'actualité arrive, très bon réveil à vous tous.
RTL Matin.